Léon Blois, Le parloir des Tarentules. Ce fut chez Barbet de Révilly, en 1869, au temps de ma jeunesse radieuse, que je rencontrai ce poète. Il m'intéressa tout de suite par ses cheveux et son coup de gueule. C'était un hirsute blanc dont le port de tête continuel semblait un défi à tous les tondeurs. Bien qu'il eût à peine 40 ans, l'épaisse toison couleur de neige qu'il secouait dans les vents lui donnait, à quelque distance, l'aspect d'un Saturne pétulant ou d'un Jupiter de la panclastite prématurément vieilli par un abus incroyable des carreaux de la volupté. La mauvaise petite figure de brique pilée qu'il exhibait sous les flocons se manifestait plus bouillante et plus cuite chaque fois qu'on la regardait. Son agitation chronique l'étonnait lui-même. « Je suis le parloir des Tarentules » criait-il de sa voix de premier à la camisole qui faisait presser le pas aux petites ouvrières dans la rue. Il avait toujours l'air d'un Samson faisant éclater les cordes ou les entraves dont les philistins naïfs auraient prétendu le fagoter pendant son sommeil. L'infortuné de Révilly, qui devait un jour succomber aux trames d'une araignée noire de l'occultisme languedocien, ne haïssait point d'attiser la rage de ce métromane volcanique, décidément incapable d'accepter une considération même distinguée, qui n'eût pas été la première ou mieux encore l'exclusive considération. Damasène Chabrol avait été médecin, ou plutôt il l'était toujours, car on dirait que la médecine imprime caractère aussi bien que le sacerdoce. Mais n'ayant pas absolument besoin de gagner sa vie, il s'était de très bonne heure dégoûté de purger des négociants ou d'analyser leurs sécrétions. En conséquence, il avait lui-même vomi sa clientèle, pour ne pas employer un terme plus fort, dont il faisait un fréquent usage et s'était généreusement acharné à la plus intensive culture des vers. Je crus, dans le temps, qu'il n'était pas tout à fait indigne de pincer la lyre, et, si ma mémoire est fidèle, ce fut l'opinion de quelques autorités. Dieu sait ce que j'en pourrais penser aujourd'hui. Mais la vie est si courte, hélas, et de durée si peu certaine, que je craindrais vraiment d'élimer le tissu précieux de mon existence en recherchant, sous les poussières accumulées de 25 ans, les 2 ou 3 recueils oubliés qu'il publia. J'ajoute qu'en supposant même du génie à ce disparu, nul poème écrit de sa main ne pourrait encore égaler l'inégalable poème de la nuit que nous passâmes ensemble chez lui, rue de Fleurus, 4 jours avant sa terrible mort, et qui ne fut pas, je vous prie d'en être inébranlablement persuadé, une nuit d'amour. 3 passions vives habitaient en lui. Les petites femmes, les grands vers et le désir de la gloire. Chacune d'elles ayant les caractères indéniables du paroxysme, je n'ai jamais bien compris comment elles pouvaient subsister ensemble, et surtout la première avec les 2 autres. C'était une chose funèbre que l'emportement de cet homme, semblable à un patriarche possédé vers les souillons et les guenillons adorés de feu Sainte-Beuve, qui du moins n'avait rien de patriarcal, et ce fut un bienfait du Second Empire que la violence de ses fantaisies soudaines ait toujours pu s'amortir dans les garneaux circonvoisins ou dans les taillis du Luxembourg, sans fâcheux esclandre. Dans les intervalles de ces crises, et en attendant que le bouc repoussât en lui, il se jetait à la copie, se précipitait dans le tourbillon des souffles inspirateurs comme le pétrel dans l'ouragan. Et c'était alors une cohue de visions, de demi-visions, d'éclairs de chaleur, d'éclipses totales, de blasphèmes gesticulés contre la voûte irresponsable du firmament et d'invocations familièrement chuchotées à l'oreille de tous les démons, jusqu'au moment où il se vautrait sur son tapis en grinçant des dents, tordu par des convulsions d'épileptique. Difficilement on s'introduisait chez lui. Il semblait toujours avoir peur que quelque chose de subtil, d'infiniment rare et précieux ne s'évada par la porte ouverte, ne descendît l'escalier, ne passa devant le mort de concierge et n'alla se profaner parmi la honte infinie des chiens de la rue. En conséquence, il n'ouvrait pas quand on frappait, ou s'il ouvrait, c'était à peine en maintenant la porte à 1 millimètre du chambranle et de sa main libre décidant de grands gestes silencières, comme s'il avait eu dans sa demeure un agonisant sublime dont il eût été nécessaire à l'équilibre des univers de ne pas rater le dernier soupir. Et si l'arrivant, non effarouché par les yeux de flamme du solitaire, voulait passer outre, malgré cet étrange accueil, il ne pouvait jamais s'introduire avec trop de rapidité, et la porte, à l'instant même, se refermait en coup de vent, comme un piège à rat sur un musaraigne. Témérité rare, dont peu d'hommes, je vous en réponds, furent capables. Le redoutable Damascène, alors à demi courbé, se frottait les mains, la pointe en bas et les paumes toutes près du menton, exprimant ainsi l'allégresse d'un cannibale sûr de sa proie. Et la fanfare de ses récriminations éclatait pendant 1 heure. Il devenait un torrent de plaintes dont on entendait d'abord le grondement sourd et la grandissante rumeur quand il arrivait au loin des montagnes bleues. Puis le rauque mugissement de plus en plus clair qui s'épandait à la façon d'une nappe immense, et enfin le fracas énorme des dislocations, des écroulements qu'il apportait de toutes les clameurs confondues. Il en avait fameusement sur le cœur, allez. Et je suppose qu'il aurait fallu la mort pour qu'il cessât de vociférer, jusque pendant son sommeil, contre les éditeurs, les journaux, l'Académie, les sociétaires de la Comédie-Française, et en général contre toute la clique humaine qui s'obstinait à ne pas le récompenser. Peut-être avait-il raison. Je vous répète que je n'en sais rien et que je ne veux pas le savoir. Je suis assez ivre déjà de mes propres indignations, sans avoir besoin de me saouler de celles des autres. J'arrive au poème de cette nuit, fameuse entre toutes, qui ne fut pas une nuit d'amour. Très exceptionnellement, Damascène Chabrol m'avait invité par lettre à venir chez lui, non pour dîner, ce qui n'eût été que salutaire et par conséquent archi-banal, mais pour entendre la lecture d'un de ses drames, ce qui me parut dangereux et fort effrayant. Sa lettre, d'ailleurs beaucoup plus combinatoire que fraternelle, ne pouvait me laisser aucun doute sur la gravité du cas. Il exigeait absolument que je fusse exact, déclarant que la justice le voulait ainsi. Cette forme d'invitation ne me révolta pas. Ma curiosité, vivement émue, établit aussitôt l'accord entre la justice et ma volonté. Je fus exact et voici tout net ce qui arriva. Dès le premier coup, la porte s'entr'ouvrit et je fus introduit selon le rythme mentionné plus haut. Damascène était plus calme que je n'eusse osé l'espérer. Il était même prodigieusement calme, et je ne pus m'empêcher de le comparer à un opérateur ou à un bourreau sur le point de fonctionner. Analogie dont j'étais infiniment loin de soupçonner la rigueur. 2 grogs étaient préparés et sur la table, grand ouvert devant l'une des 2 chaises, le manuscrit redoutable s'étalait. Le temps était doux par bonheur. S'il avait fait trop froid ou trop chaud, je pouvais très bien mourir cette nuit-là, les plus claires précautions ayant été prises pour que je comprisse l'inutilité absolue d'une tentative d'interruption quelque courte et légitime qu'elle fût. La fille de Jephthé, drame biblique en 5 actes, commença-t-il en me fixant d'un œil implacable. L'exercice, d'abord, ne me déplut pas. Le lecteur avait une voix bizarre de gastralgique, s'élevant sans effort des basses profondes aux notes enfantines les plus aiguës. Il parlait ainsi et jouait véritablement son drame, multipliant les gestes jusqu'à se précipiter à genoux pour une prière quand la situation l'exigeait. Curieux spectacle qui m'amusa pendant 1 heure, c'est-à-dire pendant tout le 1er acte seulement. Car le monstre poussait la conscience jusqu'à recommencer plusieurs fois les scènes entières dont il craignait de ne pas m'avoir fait sentir toute la beauté, sans qu'aucune admirative protestation pût le rassurer. Au 2e acte, la mimique ayant perdu le charme de l'imprévu, je m'avisais d'écouter véritablement. C'était lamentable. Imaginez le poncif, le plus poussiéreux, le plus culotté, le plus crasseux, le plus fétide. Un amalgame effrayant de racines du bonhomme gagne et de désaugier. Je me rappelle un interminable discours de son impossible juge sur l'agriculture et l'économie sociale. Vers la fin du 3e, je feignis un besoin subit de l'espèce la plus vulgaire, espérant ainsi gagner la porte de l'escalier. Cet homme nuisible m'accompagna. Il fallut tout avaler et cela dura jusqu'à 1 minuit. Oh, j'étais presque aussi sacrifié que la fille elle-même du libérateur d'Israël. Mais que devins-je lorsque, m'élançant sur mon chapeau, Damascène me dit ces mots qui me parurent tirés de l'Apocalypse. « Oh, ne vous pressez pas, nous n'avons encore rien lu. Oh, je ne vous lâche pas que vous ayez entendu mes sonnets. » Un ignorant de la langue française aurait pu croire qu'il m'offrait une tasse de chocolat. Or, il m'annonça 1500 sonnets, plus de 20 000 vers. Et sa voix, loin d'être affaiblie par le précédent effort, était maintenant plus claire, plus fraîche, mieux entraînée, capable, semblait-il, de tromboner jusqu'à la chute, si malencontreusement ajournée, du ciel. Que faire ? Il m'était démontré que je ne pourrais sortir que sur le cadavre de cet enragé, et je n'avais pas alors, comme depuis, l'habitude vénielle de tremper mes mains dans le sang. Je me rassis, étouffant un râle de désespoir. 5 minutes plus tard, je dormais profondément. Le carillon d'une clarine alpestre vivement agité à mon oreille, me réveilla. « Ah, vous dormez, je crois, » me dit mon bourreau. « Mon Dieu, rebondis-je, non, je dors sans dormir. J'avoue que je me sens un peu de fatigue. Oh, très bien, je connais ça. » Il ouvrit alors un tiroir, en tira un revolver qui me parut de dimension anormale, l'arma soigneusement, le posa sur la table sans lâcher la crosse et reprenant de la main gauche son manuscrit, ajouta simplement « Je continue !» Ce supplice dura jusqu'au lever du soleil. À ce moment, il se leva mécaniquement, ferma son accordéon et me déclara qu'il allait prendre le train. « Je vais voir papa, » m'expliqua-t-il. Quelques heures plus tard, il giflait son père âgé de 75 ans en arrivant à Orléans et se jetait aussitôt après dans un puits du fond duquel on le retira fou furieux pour l'enfermer dans un cabanon où il mourut en pleine frénésie le surlendemain. À mon extrême surprise, j'héritais d'une partie considérable de sa fortune. Et c'est avec son argent, si on tient à le savoir, que je me suis tant amusé de 25 à 30, comme chacun sait.